Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec quelqu'un qui n'est jamais passé dans mon podcast, c'est la première fois que je le reçois. Et surtout, un truc important à vous dire, c'est quand même qu'on est toujours dans cette période de crise du Covid-19 pour les gens qui nous écouteront dans quelques temps. Alors on vient d'être déconfinés, hein, ça fait trois jours qu'on est déconfinés, on est le 13 mai 2020. Et mon invité du jour, c'est Mathieu Grodner, il est directeur général de Simone Perel. Bonjour Mathieu.
Bonjour Adrien, comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Ça va, je te remercie.
Ma première question c'est comment va la santé? Ça c'est la première chose. Mais j'aimerais aussi que tu nous fasses quand même un petit historique de Simone Perel parce que c'est une entreprise française, familiale, etc. qui, en tout cas tous les gens qui écoutent connaissent, mais ça serait quand même pas mal d'avoir un petit historique de Simone Perel.
Oui, avec plaisir. Bah, écoute, rapidement, la santé, ça va déjà, donc c'est un premier élément.
C'est pas mal. Ouais.
Et voilà, on a la chance, en tout cas, dans l'entourage proche, tout le monde va bien. Pour parler de Simone Perel, effectivement, on a une maison familiale. Simone Perel, c'était ma grand-mère. Elle a créé cette entreprise juste après la guerre, en 48, après avoir passé son diplôme de corsetière. Et donc, on a une maison qui a un peu plus de 70 ans. On est resté une maison familiale. Notre savoir-faire, c'est un savoir-faire de produit puisque c'est notre cœur de métier, c'est de créer, de développer, puis de distribuer des collections de lingerie qui répondent à plusieurs impératifs et qui s'inscrivent aussi dans le cadre de valeurs très fortes, comme souvent les maisons familiales. Incarne des valeurs et c'est le cas chez nous. Donc souvent les valeurs de l'entreprise rejoignent celles de la famille et vice versa. Donc la maison s'est fait connaître d'abord en France dans les années 50-60. Elle a amorcé un développement international à partir de la fin des années 70 et aujourd'hui on est un groupe très international puisqu'on plus les trois quarts de notre chiffre d'affaires qui est fait en dehors de France. Donc on trouve nos produits dans les grands magasins, dans les magasins spécialisés et puis dans nos propres boutiques. Ça, c'est un développement qui est plus récent. Les boutiques Simone Perel à l'enseigne et puis évidemment en digital aussi sur chez beaucoup d'acteurs du digital et sur nos propres plateformes e-commerce. Mmh.
Tu peux nous donner une petite répartition des ventes sur l'ensemble de ces canaux de distribution?
Oui, alors en fait c'est assez équilibré puisque on fait en gros un tiers du chiffre d'affaires avec des grands magasins, un tiers du chiffre d'affaires mondial avec des grands magasins, un tiers avec des détaillants multimarques indépendants et puis le tiers restant avec notre propre réseau de boutiques et e-commerce.
D'accord.
Après, si tu raisonnes géographiquement, ouais. C'est 75% international et 25% France.
Et sur votre site internet en propre aujourd'hui, parce que bon, ma question sous-jacente, c'est dans quelle mesure vous avez été impacté par ce confinement, la fermeture des boutiques, etc. Et ce que je cherche à savoir, c'est la part du chiffre d'affaires généré par vos boutiques en ligne. C'est quoi?
Alors, le digital, globalement, c'est à peu près 10% de nos ventes. Si on raisonne mondialement, c'est un canal qui a explosé là dans la période du confinement, au-delà de ce qu'on pouvait s'attendre, puisque les chiffres qu'on réalisait là depuis mi-mars c'est entre x3 et x4 en moyenne. Donc il y a un effet de report, mais il y a aussi, je pense, un effet d'accélération de la digitalisation en général avec ce qu'on vit aujourd'hui et je pense que c'est quelque chose de durable.
Et avant qu'on digue un petit peu dans la crise, aujourd'hui comment est organisée votre production au niveau mondial? Vous produisez encore en France, un petit peu en France, en Europe, en Asie, comment ça se passe?
Oui, alors je parlais de savoir-faire tout à l'heure quand je faisais l'histoire rapide de la maison. Donc la lingerie, c'est un métier très technique, en tout cas la lingerie haut de gamme, c'est celle que l'on fait nous. Donc ce savoir-faire, on l'a gardé intégralement en France. Ça veut dire que toute la phase de création et d'élaboration du produit, elle est en France. La production au sens industriel n'est majoritairement plus en France parce que malheureusement, c'est plus possible pour des questions de coûts. Mais nous produisons dans nos propres usines, des usines maison qui ne produisent que pour nous, qui font partie du groupe, ce qui nous assure une maîtrise totale sur toute l'organisation et toute la production, évidemment. Donc, on est une maison qui est très intégrée, en fait, sur tous les métiers, du point de départ, du premier coup de crayon de la styliste jusqu'à la vente en magasin.
Et ces usines, elles se trouvent où?
Alors, on en a une qui se situe en Tunisie, l'autre qui est à Madagascar. Et dans un cas comme dans l'autre, ce sont des régions où il y a une tradition textile importante, ancienne, et donc un savoir-faire sur ces métiers-là. Ce qui explique qu'on ait choisi ces lieux pour les implanter. Mais on y est depuis longtemps. C'est pas nouveau. Donc voilà.
Quelle a été votre réaction à l'annonce du confinement, à cette crise? Est-ce que vous l'aviez anticipé? Est-ce que vous l'avez vu venir? Et comment vous avez réorganisé dans les premières semaines du confinement la société?
Alors, ce qu'on l'a vu venir, ce serait un peu présomptueux, franchement. Je suis pas sûr. Enfin, t'as sans doute interrogé pas mal de maisons là ces dernières semaines. Je sais pas ce que répondent les autres, mais non. Très honnêtement, personne chez nous, en tout cas, n'imaginait un tsunami comme ça. On a assez peu de présence en Asie, donc ce qui se passait en Chine ne nous touchait pas très directement. Mais évidemment, c'est très différent depuis la mi-mars. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord dû mettre toute l'entreprise au ralenti pour la protéger dans un premier temps, puisque du jour au lendemain, c'est tous nos points de vente mondiaux qui ont fermé quasiment du jour au lendemain. On n'est pas les seuls dans ce cas, mais c'est clair que le secteur du retail a fait partie des plus touchés. Il a fallu se résoudre à mettre beaucoup de gens en inactivité provisoirement, en France comme à l'international. Il y a eu des bons côtés aussi, je dirais, à cette obligation de se réorganiser très vite et comme on ne l'avait jamais fait avant, en fait, puisque la situation était complètement inédite. C'est que je trouve que les gens, les équipes ont fait preuve de beaucoup de solidarité, beaucoup d'implication aussi. Il n'y a eu aucune démobilisation, au contraire. Évidemment, le travail à distance s'est généralisé. Et comme c'était de toute façon une tendance forte avant cette crise, ça n'a fait qu'accélérer cette tendance. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est une bonne chose pour l'avenir. On est maintenant capable de travailler dans un mode comme ça, à distance, très déployé, avec une majorité.
Et chez Simone Perel, c'était déjà dans les mœurs cette façon de travailler à distance, où vraiment là, ça a été un changement radical et. Quels étaient les us et coutumes avant cette crise?
Non, pour être honnête, c'était pas vachement dans les mœurs, c'était plutôt peu développé encore. Donc on avait une organisation assez classique, tous les métiers du siège viennent bosser tous les jours au bureau. Et avec une crise comme ça, on se rend compte qu'en fait, à peu près tous les métiers de ce même siège, ils peuvent être faits à distance aussi bien qu'au bureau, à quelques exceptions près. Et que donc, effectivement, le télétravail, il est pas aussi compliqué qu'on pouvait le croire de le généraliser. Je crois qu'on a aussi constaté qu'on pouvait faire confiance aux équipes, que chacun est responsable. Et voilà, donc, je pense que c'était le cas dans beaucoup d'entreprises. Mais c'est un moyen de s'adapter plus vite à une réalité.
C'est clair. Et c'est quelque chose que vous allez vraiment garder, pérenniser et encourager par la suite?
Je pense qu'il va falloir, s'en inspirer pour la suite. Alors peut-être pas de façon aussi généralisée et permanente, évidemment, mais en faire une pratique plus courante, oui, clairement. De toute façon, c'est l'évolution des mœurs, c'est l'évolution des nouvelles générations. Donc c'est quelque chose qui est dans l'air depuis un certain temps. Et si on veut rester aussi attractif pour les nouvelles générations, il faudra être capable de proposer ce type d'organisation très facilement.
Et alors, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'effet de la crise sur les ventes et notamment sur le digital. Comment est-ce qu'on monte en puissance comme ça? Parce que faire x3, x4 sur le digital du jour au lendemain, ça chamboule quand même deux, trois trucs, non, dans l'organisation et dans le fonctionnement.
Oui, ça change des choses, c'est sûr. Là, faut tirer un grand coup de chapeau à nos équipes, aussi bien digitales que logistiques. L'entrepôt en particulier qui s'est jamais arrêté de tourner, ils ont toujours continué à bosser au moins un jour par semaine pour assurer l'expédition des commandes. Donc, et assurer un service maximum à nos clients dans ce malgré ce contexte-là. En fait, c'était pas un bouleversement de l'organisation, mais ça a été plutôt un potentiel révélé à la fois pour toute l'équipe digitale et aussi sur notre capacité de résilience dans un contexte comme ça. C'est aussi un révélateur du niveau d'engagement et de fidélité de nos clients. Parce que c'était pas forcément évident d'imaginer que les clients continueraient d'être aussi fidèles à la marque dans ce contexte-là. Donc oui, on tire pas mal d'enseignements, c'est clair.
Et vous avez mis des choses en place particulières en termes de ce qu'on pense toujours au choix des tailles, l'essayage, etc., ce genre de choses. Ce qui bloque les achats sur Internet en général, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas essayer, etc. Donc ça, c'est ma première question.
Oui, alors ça, c'est une barrière qui a assez vite sauté pour nous, parce qu'on s'est vite rendu compte, quand on a commencé à développer le canal il y a déjà une petite dizaine d'années, qu'en fait, l'achat de lingerie en ligne est finalement une catégorie assez affinitaire. C'est contre-intuitif, hein, tu as raison, au départ tu te dis j'ai envie d'aller en cabine, faut que je connaisse ma taille, faut que j'essaye. En réalité, il y a beaucoup de femmes qui sont contentes de pouvoir rester chez elles, de pas avoir besoin d'aller se déshabiller dans une cabine avec une vendeuse qu'elles connaissent pas, etc. Et qui commandent une ou deux tailles et qui renvoient celle qui va pas. Et puis toutes les clientes qui connaissent déjà le produit qui leur vend, elles sont très contentes de pouvoir le commander comme ça. Donc finalement, et c'est tant mieux, c'est pas du tout un frein.
Sur le fait que vous ayez multiplié par 3 ou par 4 le chiffre d'affaires sur le digital, c'est uniquement le fait que vos boutiques physiques est fermée, etc. Ou est-ce que vous avez fait de la publicité? Est-ce que vous avez fait du digital marketing à fond? Enfin, qu'est-ce qui explique ça au-delà du fait que les boutiques est fermée et que les gens aient besoin peut-être d'acheter plus de vêtements d'intérieur, quoi?
Ouais, non, c'est effectivement exactement la question qu'on s'est posée. Il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a une partie de la réponse, c'est un effet report, effectivement, du fait qu'on peut plus acheter en magasin physique. On vient acheter en ligne pour les clients qui nous connaissent déjà, mais c'est pas la seule explication. Sinon, on n'aurait pas fait comme ça du x3, x4. On a aussi recruté de nouvelles clientes pendant cette période-là. Alors, par du marketing digital, mais aussi par le fait qu'on a continué d'animer notre présence sur les réseaux sociaux exactement comme on le fait en période normale, voire plus intensément en maintenant des lancements de produits qui étaient prévus avant la crise. Par exemple, on a lancé notre première collection de sport au mois d'avril en partenariat avec une coach professionnelle qui s'appelle Lucille Woodward. Enfin, on a eu une réponse hyper positive et immédiate de notre communauté là-dessus. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est typiquement le genre d'action qui a permis de recruter des nouveaux clients. Et puis les clientes qui étaient déjà clientes du site, je pense qu'il y a eu un effet aussi achat plaisir dans une période où c'était pas très gai comme pas très amusant comme période, mais du coup les gens avaient aussi envie de se faire plaisir. Et on a aussi on fait aussi partie de ces marques qui constituent un achat plaisir.
Ouais. Et quelles sont les catégories qui ont plus performé que les autres? Tu nous parlais du sport, mais est-ce que le bain, la nuit, le homeware ou plutôt qu'est-ce qui a le mieux performé ou qui a surperformé par rapport à ce qui se fait d'habitude?
Alors honnêtement, c'était plutôt homogène. Je veux dire, on n'a pas vu de gros changements par rapport au ranking qu'on voit d'habitude dans les catégories de produits. Si ce n'est effectivement l'exemple du sport, puisque c'était un nouveau lancement, donc oui, ça a été une locomotive au mois d'avril. Mais sinon, nos best-sellers sont restés nos best-sellers. On a aussi démarré la saison de bain, même si les gens ne pouvaient pas beaucoup aller à la plage, ils étaient contents aussi
de se projeter.
Ouais, voilà, c'est un moyen de se projeter, de s'évader un petit peu. Et voilà, mais non, sur la lingerie, ça a pas changé grand-chose. Mais je pense que finalement, toutes les maisons n'ont pas maintenu les lancements comme on les a maintenus, maintenu leur présence sur les réseaux sociaux de cette manière-là, maintenu un niveau de service comme on l'a maintenu. Et donc, voilà, il y a aussi une sélection qui se fait et on a un peu tiré notre épingle du jeu, il faut le dire aussi.
Mais j'ai l'impression que vous, ce qui fait votre force, c'est le fait que j'ai l'impression que tout est internalisé. Parce que même la partie logistique, les entrepôts, c'est chez vous aussi, c'est ça hein.
Oui, tout à fait. C'est notre entrepôt intégré et bien sûr, c'est un avantage important dans des circonstances comme ça. Ouais, tout à fait. Donc oui, ça c'est sûr que ça nous a permis de aussi de garder ce niveau d'activité et un niveau de contrôle total sur la situation.
Dans le marketing, dans la communication, dans les shootings, est-ce que vous avez déjà changé quelque chose ou est-ce que vous allez changer quelque chose ou vous n'allez rien changer du tout?
Alors, on a un marketing qui a déjà beaucoup évolué ces dernières années et en l'occurrence, il était déjà prévu pour cette année 2020 le lancement d'une nouvelle plateforme de marque autour d'un concept qu'on a appelé les nouvelles héroïnes. Qui arrive après un concept qu'on a utilisé ces trois dernières années qui s'appelait les Simones. Les Simones étant nos ambassadrices, mais des ambassadrices qui sont des femmes de tous les jours, du quotidien, qui racontent leur rapport à la lingerie, en quoi leur rapport à la lingerie, et en l'occurrence la lingerie Simone Perel, est voilà, une source de confiance, d'épanouissement pour elles dans leur quotidien, quel que soit leur métier. Les nouvelles héroïnes, c'est un petit peu la suite de ça, la suite logique de ça, avec simplement une signature artistique qui a été un petit peu revue et une prise de parole nouvelle qui sera visible pour nos clients à partir du mois de juillet, donc très bientôt en fait. Ça c'est sur un plan marketing. Si on raisonne sur le fond par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois, qu'est-ce que ça doit changer pour une marque comme nous dans son positionnement, dans ses prises de parole? Aujourd'hui, je réponds à cette question pas grand-chose, dans le sens où nous, on est une maison qui, par son histoire, par son ADN, par son savoir-faire, porte déjà des valeurs fortes. Hein, qui sont des valeurs d'artisanat, des valeurs de proximité, des valeurs d'authenticité. Et ça, c'est perceptible dans notre produit. C'est-à-dire à la fois le soin qu'on apporte au développement du produit, au choix des matières, le fait que la très grande majorité de nos matières viennent d'Europe, et ça a toujours été le cas, le fait qu'on assure, comme on en parlait il y a un instant, toute la chaîne de production de A à Z. Tout ça, c'est des choses qu'on a assez peu racontées dans le passé. Le fait de commencer à les raconter aujourd'hui, c'est déjà, je pense, quelque chose d'important et qui répond à une tendance de fond et encore plus forte pour les nouvelles générations, qui est la recherche de sens dans l'acte d'achat et dans la consommation en général. Et je pense que notre marque, naturellement, est porteuse de sens pour les raisons que j'évoquais. Il y a aussi cette histoire familiale qui est authentique, qu'on n'a pas inventée. Et tout ça, je pense, est assez en phase avec les attentes des femmes d'aujourd'hui et de demain. Donc, il s'agit surtout de mieux et davantage raconter notre histoire. C'est ça qui est important. Et je pense qu'on se situera assez naturellement en phase avec les attentes sociétales, environnementales plus fortes qui émergent depuis un moment, mais ces attentes vont être, croissantes avec ce qui se passe aujourd'hui.
Et comment vous racontez mieux alors votre histoire au travers d'Instagram, qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour mieux raconter votre histoire, ou en tout cas juste peut-être la raconter tout court, non?
Exactement. Alors il y a bien sûr les réseaux sociaux qui sont un outil incontournable et on apprend à l'utiliser de mieux en mieux pour à la fois montrer pas seulement de jolies photos de belles femmes qui portent nos produits, même si c'est important de le faire, mais aussi montrer un petit peu les coulisses de la maison, hein, les coulisses de savoir-faire, c'est quoi, comment on fabrique un produit, comment on l'élabore, comment on choisit nos matières. C'est ça, raconter notre histoire. C'est aussi raconter l'histoire tout court de la maison. C'est parler aussi des femmes qui travaillent pour la maison, hein, et qui sont aussi des ambassadrices, qu'il s'agisse d'une ouvrière en Tunisie ou d'une modéliste à Clichy, voilà, ou d'une représentante sur le terrain. C'est, voilà, on est une entreprise constituée très très majoritairement de femmes, hein, probablement pas loin de 80% de femmes chez Simone Perel. Et voilà, donc c'est autant de choses qu'il faut raconter. Les réseaux sociaux sont un outil extraordinaire pour le faire. Donc c'est, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on l'aborde. Et on l'aborde aussi avec des prises de parole qui se veulent plus marquantes, plus fortes. C'est l'idée de ce concept des nouvelles héroïnes aussi, c'est d'avoir une signature artistique qui soit plus marquée et qui porte davantage de modernité aussi, puisqu'on est tout à fait conscient qu'on est une maison qui a besoin de rajeunir sa clientèle, en France en particulier. Donc il faut, pour recruter de nouvelles clientes plus jeunes, bah, il faut porter un message qui leur parle et une image dans laquelle elles se projettent. Donc c'est tout à fait ça l'idée de cette plateforme.
Sur la dimension responsable et des matières, alors moi c'est un peu ma marotte, mais comment vous... Parce qu'il y a quand même une lame de fond qui arrive, et c'est un vrai problème pour la partie maillot de bain et lingerie, etc. C'est quand même cette histoire du polyester et des fibres synthétiques. Comment est-ce que vous répondez à alors pas des attaques, parce que je pense pas que ce soit des attaques, il n'y a pas encore trop de virulence, je trouve, mais c'est courant no more plastique, c'est courant de matière plus naturelle, etc. Comment, quand est-ce qu'on fait de la lingerie, on peut pas, enfin, c'est compliqué de se passer de ces matières-là, quoi. Comment vous appréhendez le sujet ?
Ouais, non, mais tu as raison. On peut pas faire table rase de plusieurs décennies de savoir-faire et de méthodes techniques de fabrication comme ça du jour au lendemain. Donc c'est un long processus. Il faut se dire la vérité. On n'est pas la pire des filières de ce point de vue-là, on n'est pas la meilleure non plus. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais ça ne peut se faire que si c'est l'ensemble de la filière qui bouge. Une maison à elle seule ne peut pas embarquer toute la filière des fabricants de matières, justement, et révolutionner effectivement les matériaux utilisés, les process de fabrication utilisés, enfin, tout ce à quoi tu faisais référence à juste titre. Donc, pour l'instant, c'est timide, pour être honnête, les initiatives sur ce plan-là spécifiquement. Donc oui, on parle de coton recyclé, on parle de choses comme ça. C'est des premiers pas, mais c'est pas encore de quoi révolutionner effectivement l'impact environnemental de la filière. Il y a toute la problématique de la teinture aussi qui est majeure. Et pour laquelle il n'y a pas encore non plus des solutions révolutionnaires. Donc ça arrive doucement. Il y a une problématique de coût derrière tout ça, parce que
bien sûr,
produire plus responsable, on a tous envie de le faire, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc il faut que tout le monde puisse s'y retrouver, jusqu'à la cliente qui achète le produit, parce que certes elle a envie d'acheter un produit qui respecte certaines normes, mais elle n'est pas prête à payer n'importe quel prix non plus.
Bien sûr.
Donc c'est un équilibre dans l'écosystème qu'il faut trouver, qu'on n'a pas encore trouvé. Mais on va dire que je suis plus optimiste aujourd'hui sur ce sujet-là que je ne l'étais il y a 3 mois, parce que je pense qu'une crise comme ça peut faire effectivement basculer plus globalement l'ensemble de la filière. Alors que voilà, jusqu'à présent, on était quelques acteurs un peu seuls à se débattre. Et là, ça va être, comme tu disais, plus une lame de fond. Il y a un autre phénomène, c'est qu'on va voir aussi, je pense, un retour à plus de proximité dans le sourcing. Alors, pour nous, ça ne va rien changer, parce que comme je le disais tout à l'heure, notre sourcing, de toute façon, il a toujours été européen. Donc, il va le rester. Et donc ça, c'est aussi un phénomène qu'on va voir. Alors, je sais pas si ça ira jusqu'au Made in France, parce que le Made in France, c'est quand même un petit peu compliqué dans un métier comme le nôtre où là, bah, on fait un métier manuel, hein, donc on n'est pas encore de robot qui fabrique un soutien-gorge. Hein. C'est toujours une femme derrière ou un homme d'ailleurs, derrière une machine à coudre. Et c'est à peu près la même machine à coudre qu'en 1950. Elle n'a pas beaucoup évolué. Hein. Donc,
Mais c'est clair.
Donc voilà, donc je pense qu'il y a voilà, il y a beaucoup de pistes qui sont déjà à l'étude, certaines se concrétisent. Bon, nous par exemple sur nos prochaines collections de bains, on essaie d'avoir 50% de nos matières qui utilisent donc des composants responsables, c'est-à-dire des matières recyclées. Et voilà, et moi je suis plutôt sur une position pragmatique là-dessus, c'est-à-dire on fait le maximum tant que ça a un sens sur un voilà pour l'ensemble de l'écosystème du fournisseur jusqu'à la cliente finale.
Comment tu vois la reprise s'opérer là, on le disait en intro, hein, ça fait 3 jours qu'on est déconfiné.
Ouais.
Les boutiques réouvrent timidement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en est chez vous? Est-ce que vous réouvrez vos boutiques ou pas pour l'instant encore? Comment ça se passe si vous réouvrez, etc., etc. Et comment tu vois le business dans les 6 prochains mois ou dans l'année qui vient, quoi?
Oui, alors nous, comme je disais, comme on a un business qui est très international, la réouverture ne se fait pas partout au même moment et au même rythme, mais c'est vrai qu'en Europe, le déconfinement se fait à peu près au même moment dans les principaux pays. L'Allemagne était la première à commencer il y a déjà 3 semaines. En France, ça fait 3 jours. Donc partout où on peut réouvrir, on rouvre. Et là, en France, on est mercredi, c'est aujourd'hui qu'on rouvre tous nos points de vente à l'enseigne Simone Perel en France, dès aujourd'hui. Les grands magasins rouvrent aussi, à quelques exceptions près. Nos détaillants multimarques rouvrent aussi en grande majorité partout en France. Et c'est le cas aussi dans le reste de l'Europe. Dans les autres principales régions, on est implanté Amérique du Nord, Australie, Moyen-Orient, assez variable. Les États-Unis, c'est pas encore ouvert, majoritairement pas ouvert. L'Australie est en train de rouvrir, le Moyen-Orient a rouvert. Bon, donc on s'adapte. Pour la façon dont on, enfin ce à quoi on s'attend, pardon, sur les prochains mois, bah, c'est une reprise qui sera probablement très lente et très progressive, qui va refléter ce que j'évoquais, voilà, une année 2020 qu'il va falloir gérer de façon hyper prudente, parce que on retrouvera pas un rythme de croisière très très vite, à mon avis pas avant 2021 en tout cas. Donc, on construit nos prévisions de cette manière-là.
Comment on peut se préparer à... Alors, malheureusement, je ne veux pas être pessimiste, mais pas mal de gens disent quand même que c'est bon, a priori, et ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière, on va s'en prendre d'autres, des crises comme ça. Comment est-ce qu'on peut préparer nos business et des sociétés comme Simone Perel à ce genre de cataclysme, quoi, ce genre de grosse crise, de grosse claque? Comment est-ce qu'on peut... changer, modifier, parce que j'ai l'impression que la clé dans tout ça, c'est quand même l'agilité, hein. Tout le monde parle d'agilité et le secret, il est là-dedans. Comment est-ce qu'on transforme des sociétés historiques comme ça en entreprises hyper agiles?
Effectivement, là, s'il y a un mérite dans une crise comme ça que pas grand monde avait vu venir, c'est qu'elle oblige on peut en tirer des enseignements, elle oblige l'entreprise à se faire violence, donc effectivement à s'adapter plus vite et plus efficacement qu'elle l'aurait fait dans un contexte classique. Donc c'est ce qu'on a fait. Effectivement, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, mais Simone Perel, oui, dans cette phase, a fait preuve d'agilité comme jamais on l'avait fait. Et je suis pas revenu sur tous les projets qu'on avait déjà engagés avant, mais le groupe, il était déjà engagé dans une transformation assez profonde depuis plusieurs années, qui consiste à déplacer un peu notre cœur de métier depuis l'industriel qui était notre métier de départ, vers la marque et le client final, qui doit être notre préoccupation première. On doit devenir une entreprise de client tout en restant une entreprise de produit. C'est un petit peu notre challenge, mais on est en voie de le réussir, on va dire. Donc voilà, si on devait, on devra, t'as raison là-dessus, probablement, malheureusement, faire face à de nouvelles crises assez violentes, on sera forcément mieux préparé, parce que ce nouveau modèle dont je parle, il se veut plus agile, et que l'organisation humaine qu'on vient de vivre là pendant 3 mois a permis aussi de montrer qu'il y avait une certaine agilité possible. Même pour une maison familiale de plus de 70 ans comme la nôtre, qui porte une certaine histoire, une certaine tradition, ça n'empêche pas et ça ne doit surtout pas empêcher d'être une entreprise moderne et agile.
Qu'est-ce que tu vas changer, toi, dans ta vision, dans ta conception de la vie, j'ai envie de dire qu'est-ce que ça va modifier en toi, cette crise ?
Très, très bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps encore de prendre beaucoup de recul. Bon, moi, le premier, hein, parce que, en fait, c'est cette période des 3 mois qui vient de s'écouler. Quand on est dirigeant d'une entreprise comme celle-là, en fait, c'est une période qui est hyper, hyper intense et où on n'a pas trop le temps de lever la tête. On passe son temps plutôt à gérer à éteindre des incendies. C'est maintenant que je vais pouvoir commencer à me poser ces questions-là. Mais c'est vrai que c'est des questions qui viennent. On a envie de s'interroger sur le sens qu'on donne soi-même personnellement à son action, à sa vie, le choix qu'on fait pour ses priorités. C'est un peu tôt pour dire quelle réponse j'apporte à ça. Oui, je pense que un des enseignements, c'est une forme aussi de rééquilibrage entre la vie professionnelle qui est forcément très très prenante quand on est dirigeant et le reste. Donc on relativise certaines choses, on va dire comme ça.
Très bien. Eh bien, écoute, merci infiniment pour ton retour d'expérience de comment Simone Perel a traversé la tempête et on a quand même parlé de plein d'autres sujets, donc merci infiniment. Je te dis bonne chance pour la suite des événements et à très bientôt.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple, allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.